Et je me suis beaucoup posé la question quel message j'allais apporter, parce que c'est toujours le problème, c'est qu'on ne se voit pas beaucoup. Et donc j'amène un message, mais je me dis, mais quel message est-ce que je pourrais apporter à cette église? Je vous l'avoue, c'est un message que j'ai déjà prêché. Ce n'est pas un message que j'ai fait spécialement. Mais je voulais faire un message qui était utile. Tous les messages sont utiles, mais quelque chose qui pouvait toujours nous aider à avancer, à aller au-delà de ce que l'on sait déjà. Et le titre d'aujourd'hui, ou la question d'aujourd'hui dans le message, ça serait « Veux-tu progresser ?» C'est une question à se poser. Est-ce qu'on veut progresser ou nous sommes déjà satisfaits de notre situation d'aujourd'hui? On va remettre cette prédication à notre Seigneur dans la prière et on commencera. Seigneur, nous voulons te remercier tout simplement parce que lorsque nous consultons ta parole, nous voyons notre vie telle qu'elle l'est vraiment, une vie qui a besoin de toi. Lorsque tu éclaires notre âme, nous voyons ces côtés, Seigneur, qui ne te plaisent pas, mais Seigneur, que tu veux purifier. Merci, Seigneur, parce que ta parole nous purifie. Ta parole nous sanctifie, elle nous fait croître. Merci, Seigneur, parce que ton amour est visible dans chacun de ces mots. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ton esprit aussi, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions marcher selon ton amour, ta joie, ta paix, ta bienveillance, ta douceur, ta tempérance. Toutes ces choses, Seigneur, qui ne viennent pas de nous, mais qui sont uniquement à toi. Merci de nous faire partager ton royaume dès aujourd'hui. Merci parce que nous avons l'espérance que nous vivrons pleinement ce salut au ciel, hors de ce corps de mort. Et merci, Seigneur, parce que tes promesses sont vraies. Nous le voyons dans nos vies, chaque chose que tu dis, tu le fais. Alors, Seigneur, qu'aujourd'hui encore ta parole puisse être active, qu'elle puisse ne pas revenir à toi sans effet, car elle est cette parole vivante. Béni soit ce culte, béni soit encore les frères et sœurs qui sont présents ici. Nous te remettons peut-être ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils te découvrent aussi comme étant un sauveur. Merci en tout cas, mon Dieu, parce que c'est ta volonté que de se révéler aux hommes. Alors sois béni aujourd'hui. C'est en Christ que je fais cette prière. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons faire un survol de l'épître aux Thessaloniciens, le premier épître. Et vous pouvez prendre déjà 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'église de Thessalonique, si on veut la présenter un petit peu, c'est une église mature. C'est une église mature. Une église qui connaît une bonne stabilité spirituelle. Vous avez des églises, parfois, quand vous lisez les épîtres, vous savez que ça, c'est pas trop bon. Nous, par exemple, on est en train de faire une série le dimanche, à Nice, sur l'église des Corinthiens. Et les Corinthiens, si vous lisez, ce n'est pas l'église exemplaire. Mais les Thessaloniques, quand vous regardez, ils ont l'air stables. Et la question qu'on pourrait se poser, mais quel est le secret de cette qualité de vie, cette qualité d'église, de cette église stable? Eh bien, on va lire en 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Ce que la parole nous dit. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Dans une église, la stabilité vient de la manière dont vous concevez l'enseignement que vous recevez. Si c'est l'enseignement d'un homme, alors elle aura pour vous le poids d'un homme, pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'elle est vraiment? L'enseignement de la parole de Dieu. Et ce que Dieu donne, ce n'est pas quelque chose d'éphémère, hein, vous savez, hein. Il donne quoi? Il donne une vie qui est la vie éternelle. Et donc sa parole, ils le disent, ce n'est pas quelque chose qui va passer, c'est quelque chose qui sera aussi éternel, donc c'est stable. Et donc si vous voulez vous confier dans quelque chose, c'est dans la parole de Dieu. Et le secret d'une vie d'église stable, c'est une église qui prêche constamment la parole de Dieu. C'est pour ça que parfois vous voyez des églises qui disparaissent et que parfois la parole de Dieu est remplacée par d'autres choses qui attirent peut-être les gens, qui amusent peut-être les gens. Mais la parole de Dieu est là pour amener du salut. Quand vous avez été sauvé, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment imaginez-vous amener la foi dans une église sans amener la parole de Dieu? Alors, quel est le secret d'une bonne qualité de vie d'église? Eh bien, c'est de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu comme elle l'est vraiment, c'est-à-dire la parole de Dieu. Si Dieu dit, alors, je vais obéir. Vous savez, derrière ce pupitre, nous ne sommes que des messagers. Un messager, ce n'est pas sa parole qui l'emmène. Il y a un roi qui lui dit, voici le message, ramène-le à tout le monde. Et quand vous recevez le message qui vous invite peut-être à entrer au royaume des cieux, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Même si en allant derrière ce pupitre, ce message ne vient pas de nous, il vient de celui qui a envoyé le Fils unique. Et donc vous allez le recevoir, pas de notre part, mais de la part de Dieu lui-même. Et c'est important de le comprendre, parce que le messager, il n'est jamais sans faille. Celui qui envoie le message est sans faille, mais le messager n'est jamais sans faille. On peut faire des fautes d'expression française, on peut parler de manière monotone, on peut être mal habillé, mal coiffé, un bouton ouvert, et parfois on arrive à s'arrêter sur ces choses-là plutôt que de s'arrêter sur ce qui est vraiment important. De quoi est-ce qu'on parle? Du message de Dieu pour nous. Si vous recevez ce message sans regarder à l'homme, mais à celui qui l'a envoyé, alors vous la recevrez vraiment telle qu'elle est, la parole de Dieu. Car aucun homme, aucun chrétien, pasteur ou tout ce que vous voulez n'est parfait. Chacun de nous doit toujours marcher dans la progression. Donc quand nous annonçons la parole de Dieu, nous annonçons quelque chose dans lequel nous souhaitons aussi progresser. Pas quelque chose, disons, c'est bon, nous on a tout accompli. Non, on veut aussi progresser. Quel que soit l'âge, si vous êtes encore ici sur terre, c'est que votre marche dans le progrès n'est toujours pas finie. Le jour où ça sera fini, ça sera où? Au ciel. Donc, vous deviez toujours vous dire, quel progrès puis-je amener dans cette vie? Quel progrès la parole de Dieu peut-elle amener dans notre vie? Et ce n'est pas pour rien que c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er, qu'il nous enseigne à marcher de progrès en progrès. Parce que c'est la vie chrétienne, on marche de progrès en progrès. Vous ne naissez pas en étant mature. Vous avez vu un enfant naître, oups, et devient immédiatement nature? Mature, pardon? Non. Il marche de progrès en progrès. Et le progrès en progrès vers quoi? Eh bien vers la sainteté, la conduite qui plaît à Dieu. Et quand Paul parle de ça, on ne sait pas exactement combien de temps il a passé au milieu des Thessaloniciens, mais on sait qu'il est resté au moins 3 sabbats. Hein, je vous lis juste ce passage. En Actes 17, 4, il dit qu'ils furent persuadés, certains d'entre eux, lorsque Paul était passé là-bas, furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant d'eux et beaucoup de femmes de qualité. Une lecture rapide nous dit qu'il est resté 3 sabbats ensuite, mais nous apprenons dans l'Épître aux Thessaloniciens que cela a certainement duré plus que ça. 3 sabbats, c'est 3 semaines. Hein. 3 sabbats, 3 semaines. En 3 semaines, Paul a amené la parole, il peut amener la parole, certes, mais Paul est allé au-delà de ramener juste la parole. Si on reprend un petit peu les versets du chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 12, on va lire ensemble. Paul va nous expliquer comment il a amené les Thessaloniciens à marcher de progrès en progrès, à avoir une conduite dans la sainteté. Verset 7 jusqu'au verset 12. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Hein, je l'ai entendu dans une prière. Notre Père qui est au ciel se comporte comme un père et une mère. Mais là, nous avons une personne qui vit à la manière de son Père. Il se comporte comment ? Comme une mère. Une mère nourricière, agissant avec douceur, rappelant qu'il leur était tellement cher qu'il aurait donné quoi pour eux ? Sa propre vie. Vous vous rendez compte un petit peu de l'amour que Paul portait pour les Thessaloniciens, un amour qui est identique à l'amour de qui ? Du Fils. Voilà une personne qui a marché de progrès en progrès à un point où on se dit aujourd'hui, ah, il est quand même loin. Moi, je dis, il est loin. Parce que s'il est resté que 3 sabbats avec eux et qu'il arrive à dire qu'il donne sa vie, c'est qu'il s'est vraiment beaucoup attaché à eux. Qu'il a vraiment eu beaucoup d'affection pour eux en si peu de temps. Il voulait donner sa vie en plus de l'évangile. Il vivait l'évangile. Mais non seulement il a fonctionné comme une mère nourricière, mais aussi comme un père. Qu'est-ce que fait un père généralement ? Là, il dit que nous avons été pour chacun d'entre vous un père pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce que les pères font ? Fais attention à la manière dont tu marches. Exhortant, consolant, conjurant. Il aimait vraiment ces Thessaloniciens. Et on dit 3 sabbats, mais beaucoup estiment que 3 sabbats, c'était peut-être cette fois-là, mais il a passé plus de temps certainement que cela. Parce que pour faire la démonstration de ce que c'est qu'un père et une mère, ça prend aussi du temps. Aussi, il agissait donc comme un vrai père ou une vraie mère. On peut voir en 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 5 et 8, un vrai père et une vraie mère, ils ont une manière de faire qui est propre à eux. Et on pourrait se dire que c'est un défaut, mais ici, ça va être une qualité. 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 5 à 8. Ainsi, dans mon impatience, donc c'est Paul qui parle, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez nous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Désirons nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Ne vous étonnez pas que ceux qui vous aiment soient impatients d'avoir de vos nouvelles. Impatience, ça pourrait être un défaut. Mais un père et une mère, quand il ne sait pas ce qui arrive à ses enfants et qu'il pense qu'il y a des afflictions, quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qui se passe ? Des nouvelles. Alors aujourd'hui, c'est facile, hein ? Vous prenez le téléphone, ça va, tu vas bien ? Mais lui, il a dû envoyer Timothée, donc imaginez le temps dans lequel il l'a passé, angoissé. Qu'est-ce qui leur arrive ? Est-ce qu'ils ont perdu ce qui a été enseigné ? Est-ce que ce qu'on a enseigné était vain ? Est-ce qu'ils ont réussi à maintenir ces choses-là dans leur vie ? Et quand Timothée leur a dit, oui, ça s'est bien passé, ils sont là, ils ont envie de te voir en plus, ils ont gardé cette foi. Merci Seigneur. Et quand vous avez des nouvelles de vos enfants, quand vous vous inquiétez et que ça passe bien, vous dites quoi ? Merci Seigneur. C'est normal. Si vous aimez vos frères et sœurs, si vous aimez une église dans laquelle vous avez travaillé et que vous avez des nouvelles, il est normal d'être content. Si vous vous donnez des nouvelles et vous dites, oh bon, ok, ça ne vous intéresse pas, ben, c'est que leur vie ne vous intéresse pas non plus. Et un père et une mère, si la vie de ses enfants ne l'intéresse pas, c'est quand même étrange. Je ne pense pas que ça soit la norme. Donc ne vous étonnez pas de la manière d'agir de Paul. Il agissait comme un père, comme une mère. Il voulait voir ses enfants, est-ce qu'ils ont bien progressé ? J'ai amené un enseignement, est-ce qu'ils maintenant ils arrivent à le mettre en pratique ? Ne vous étonnez pas alors dans ce cas-là que vos responsables aussi soient comme ça dans les églises. Parfois, on se dit, ah oh, mais pourquoi ils me demandent toujours, pourquoi est-ce qu'ils m'appellent? J'aimerais être un petit peu tranquille. Parfois, il y en a qui disent ça, ah le pasteur, bon, j'ai d'autres choses à faire quand même. Ah, je ne suis pas venu le dimanche, mais ça va, c'est qu'une fois, il m'appelle pour ça. Mais c'est normal qu'il le fasse. S'il ne le faisait pas, c'est comme s'il se disait, sa vie, aucun intérêt pour moi. Bon, il n'est pas là, il n'est pas là pendant 10 ans, pendant... alors ça change quoi? Non. Un responsable a le devoir d'aimer. D'aimer qui? Ses brebis. Comme ses enfants. Comme Paul aime comme une père, comme un père, comme une mère. Dans ce passage, on voit que Paul est consolé. Pourquoi? Eh bien, parce que ses enfants marchent d'une manière digne de Dieu. Et le travail de responsable, ce n'est pas, vous savez, comme une nourrice. C'est différent d'une babysitter. Une mère nourricière, elle nourrit l'enfant. Une babysitter, vous pouvez poser l'enfant, elle dort, regarde la télé, quand c'est fini, elle s'en va. Mais une nourricière, ça veut dire qu'il y a un véritable investissement. Et c'est pour ça que le travail dans le Seigneur, si quelqu'un aspire à cette charge, il doit quand même avoir ce désir de prendre soin des brebis, des frères et sœurs. Un travail d'exhortation, de consolation, d'instruction de père qui veut amener ses enfants à marcher d'une manière digne de Dieu, de la manière qu'a appelé le Seigneur pour amener son royaume et sa gloire, comme de vrais parents. Et indépendant de ce que les enfants l'aiment ou ne l'aiment pas. Souvent on se dit, on prend soin de lui parce que lui il est bien, il m'aime bien. Celui qui ne m'aime pas, tant pis pour lui, c'est notre manière humaine de fonctionner. Mais vous savez, quand vous lisez même, quand vous voyez déjà l'œuvre du Seigneur, il a dit qu'il nous aimait alors que nous étions des pécheurs. Et autrefois, nous étions des ennemis. Et s'il a fallu attendre que nous l'aimions pour qu'il vienne, il ne serait pas venu. Et si un responsable doit attendre que les brebis l'aiment pour aimer les brebis, ce n'est pas possible non plus. C'est l'exemple du Seigneur, comme de vrais parents. Les parents prennent soin de tous ses enfants. Et cet amour de parents, Paul exhorte l'Église à grandir pour atteindre la même chose qu'il a appris du Seigneur, à ce qu'elle progresse, qu'elle se comporte comme une Église modèle dans toute la région. Comme Paul s'est conduit au milieu d'eux. Et Paul va expliquer comment il s'est conduit au milieu d'eux. On va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 8, on avance toujours, où il dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 8, on va à la suite toujours. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès, en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné, qui va aussi donner son esprit. Il est en train d'expliquer ici ce que c'est que progresser. C'est marcher, ce que c'est que marcher de progrès en progrès. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Le verset 3 nous dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc si vous devez marcher de progrès en progrès, c'est dans quoi? Dans la sanctification. C'est-à-dire de ne plus se livrer au péché, que ce soit la débauche ou autre chose. Donc, le progrès c'est quoi? Parce qu'on pourrait dire, c'est quoi le progrès? C'est que l'Église grandisse en nombre, que l'Église grandisse les murs, qu'on apprenne encore plus de versets par cœur. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Votre sanctification. Donc une personne, quand je le regarde aujourd'hui et quand je le revois dans un an, qu'est-ce que je devrais voir? Qu'il a marché de progrès en prenant, progrès dans la sanctification. C'est-à-dire, s'il y avait quelque chose qui était un fardeau, un péché, ou quelque chose qui l'éloignait de Dieu, si vraiment il a progressé, je devrais le voir se rapprocher de qui? De Dieu. Et s'éloigner de quoi? Du mal, du péché. C'est ce que Dieu veut. Et pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix? Pour le pardon des péchés. Donc qu'est-ce que voulait Dieu lorsqu'il a donné son Fils? Que nous soyons délivrés de quoi? De nos péchés. Que nous soyons sanctifiés. Vous avez été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est le terme qui est souvent utilisé. Pourquoi? Pour marcher non plus dans le péché, mais dans la sainteté. Voilà le progrès qui est attendu. Marcher d'une manière digne de Dieu. Marcher de progrès en progrès. Marcher dans la sanctification. Il faut progresser dans la sanctification. Et c'est ce qui fait la différence entre nous et qui? Il est dit au verset 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, au fur et à mesure de notre marche, nous nous éloignons de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et on verra forcément une différence entre les païens qui fonctionnent comme quoi? Avec quoi? Avec la convoitise passionnée. Je veux, j'ai la passion, mon corps me dit, mes yeux me demandent. Mais nous, nous regardons à quoi? À ce que Dieu dit. Alors, ce que nous recevons cette parole, nous la regardons comme une parole de Dieu. C'est pour ça qu'au verset 8, il dit, c'est donc celui donc qui rejette ses préceptes, ses paroles qui sont annoncées, ne rejette pas un homme, mais qui? Mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. Donc, il vous a donné son Saint-Esprit la capacité de vous éloigner du péché. Vous voyez tout l'amour de Dieu? Ce n'est pas qu'il vous donne un ordre qui est mauvais pour vous. Il vous donne parce qu'il vous aime, pour que vous vous éloigniez du mal et que vous sortez des souffrances qui sont amenées par le péché. Rappelez-vous, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Quand vous péchez, vous perdez quelque chose. Ne pensez pas que je pêche et puis après je reviens, c'est pas grave, je pêche, je reviens. Non, il faut marcher de progrès en progrès. Là, à chaque fois que vous péchez, quelque chose sera perdu. Certes, vous êtes sauvé, mais vous perdrez peut-être une relation avec un frère ou une sœur. Vous perdrez peut-être même votre réputation. Vous perdrez beaucoup de choses et vous en souffrirez. Parce que le péché amène toujours la souffrance. Et il faut progresser. Et Paul, ici, donne des préceptes. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce ne sont pas ses préceptes, ce sont les préceptes de Jésus-Christ. Ne rejetons donc pas les préceptes, non pas d'un homme, mais de Dieu. Lorsque Dieu nous enseigne dans sa parole, mettons-le en pratique, nous avons son esprit. Et non seulement Paul leur indique de suivre ses préceptes, mais Paul va faire un peu plus. Parfois on parle, et quand on nous regarde, on dit, tu dis ça, mais c'est pas trop ta vie quand même. Hein. C'est pour ça que Paul n'hésite pas à dire, au verset premier, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est à cela que vous faites, et c'est là ce que vous faites, pardon, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est facile de dire. Mais le meilleur moyen d'amener les gens à la conduite de la sainteté, qu'est-ce que fait Paul? Regardez comment est-ce qu'on marche. Est-ce que nous pouvons, dans notre vie, dire aux hommes autour de nous, regarde. Regarde comment je marche avec le Seigneur. Je ne suis pas plus qu'un autre, je fais juste ce qu'il me dit. C'est la parole de Dieu. Et quand je le mets en pratique, j'ai quoi? J'ai la délivrance. Quand je le mets en pratique, je progresse. Ce n'est pas que je suis plus qu'un autre, c'est juste que je sais qui va me faire marcher de progrès en progrès. Apprenez cette manière de vivre. Et souvent, on n'accepte pas cela et on se dit, je dis, mais je ne fais pas. Vous savez, c'était la manière de vivre de certaines personnes dans les évangiles, quand Jésus parlait d'eux. Il disait, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, ne faites pas leurs œuvres. Ils disent, mais ils ne font pas. De qui est-ce qu'il parlait ? Des pharisiens. C'est ce qu'on appelle de la religion. Une religion ne change pas une vie. Ce qui change votre vie, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, de vous éloigner du mal. C'est ça le progrès. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Est-ce que ma vie plaît à Dieu ? Est-ce que je suis là en train de me dire chaque jour, Seigneur, j'avance selon ta parole ? Que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour toi. Quand je marche, que ce soit toi qui dirige ma vie. Et Paul, lorsqu'il enseignait cela, ses préceptes, il enseignait non seulement la parole, mais il la vivait. En Philippiens, c'est lui qui dira, ce que vous avez vu, reçu et entendu de nous, mettez-le en pratique. C'est le rôle, quand on veut être responsable, d'amener cela devant les autres. Quand on est mature, et qu'on s'estime mature, il faut avoir cette vie. Et Paul ne voulait pas que ses enfants voient autrement. Il les a connus et il a compris, après le retour de Timothée, que ce sont des enfants qui marchent dans l'amour fraternel. C'est vrai. Et on va le lire encore. Chapitre 4, on va lire la suite, du verset 9 au verset 10. Il dit quoi des Thessaloniciens ? Pourquoi je vous dis que c'est une église mature ? Il lui dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Imaginez qu'on écrive une lettre à nos églises en disant, ah, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur l'amour fraternel. C'est quand même une bonne chose, hein ? Pas besoin qu'on vous enseigne sur l'amour fraternel, ça veut dire que les gens estiment en tout que, incroyable cette église, quel amour fraternel ! Tout le monde fait quoi ? Édifie les uns les autres, et cet amour, elle est même au-delà de l'église. Dans toute la région, elle est connue. Et on pourrait se dire, à arriver à ce point-là, qu'est-ce qu'ils ont de plus à apprendre ? Mais qu'est-ce que leur dit Paul, à la fin du verset ? Abondez toujours plus dans cet amour. Même une église où on peut estimer ils sont ici, Paul leur dit quoi ? Il y a encore tout ça. Et pourtant, nous, quand on se regarde dedans, on dit, mais c'est déjà pas mal. Et mais il y a toujours du progrès. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite à cet amour. La limite, c'est Dieu. Et vous connaissez la limite de Dieu ? Comment on l'appelle déjà ? L'éternel. Vous connaissez la limite de l'éternité ? Et vous ne connaissez donc pas la limite de l'amour de Dieu. Mais nous, on limite l'amour de Dieu à notre limite. Ah mais j'aime, déjà j'aime ses frères. Moi, il ne m'aime pas, je l'aime aussi. Cela aussi, j'aime. Il y a toujours quelque chose en plus. Et quand vous marchez et que vous progressez en sainteté, vous vous rendez compte qu'il y a cet amour qui grandit aussi. Et c'est ce que Paul vivait. Et vous savez, c'est ce que le Seigneur aussi nous demandait. Je vous lis ce verset, Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le critère, c'est « comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». Donc, le but, c'est d'aimer au niveau de qui ? De Christ ? Bon, si vous avez atteint, vous pouvez lever la main. Personne ne lèverait la main. Vous savez très bien de quel amour il nous a aimés. Et vous savez très bien qu'il nous a aimés alors qu'on était des blasphémateurs. On était des personnes qui étaient très loin de lui. Moi, personnellement, combien de fois j'arrêtais pas de maudire Dieu avant ma conversion, pardon, en me disant, mais il n'existe pas, un fou qui parle à un Dieu qui n'existe pas et qui blâme un Dieu qui n'existe pas. Mais à ce moment-là, il m'aimait déjà. Et si aujourd'hui, je suis à lui, c'est parce qu'il m'a toujours aimé. Il n'a jamais cessé d'aimer. Alors que nous, notre amour, elle fait ça. Et parfois, elle redescend. Parfois, ça remonte. Parfois, ça descend. Ça ne remonte pas, peu importe. Mais ça, c'est l'amour des hommes. Sommes-nous des disciples de Christ ? Cherchons-nous constamment à progresser dans notre vie chrétienne, progresser dans la sainteté, progresser donc dans l'amour fraternel. S'éloigner du mal. Le mal, c'est de faire du mal, de blesser ses frères et sœurs. Si vous aimez vos frères et sœurs, vous vous sanctifierez. Si vous vous sanctifiez, vous aimerez vos frères et sœurs. C'est la volonté de Dieu et le moyen que Dieu a donné. Alors comment progresser ? Si nous voulons progresser, eh bien, il faut simplement mettre en place ce que Paul enseigne, la bonne conduite qui plaît à Dieu, la conduite que les Thessaloniciens avaient déjà adoptée, mais qu'il faut amener de progrès en progrès. C'est pour ça qu'à la fin de cette lettre, Paul va rappeler la manière de faire. On peut prendre du verset 23 à 28 du chapitre 5, 5, 23 à 28. Non, pardon, du 12 au 22 d'abord. Du 12 au 22. Où il nous est dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit envers vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que d'impératifs. Que des impératifs, des préceptes, des commandements à mettre en pratique. Quand vous avez un impératif, c'est ce que ça veut dire, un impératif c'est quelque chose que vous ne devez pas manquer, il faut le faire. Voilà l'ordre qui est donné. Le premier ordre c'est mettre en place le cadre parental, on va dire, que Paul avait mis quand il était là-bas. Le premier point mentionné, eh ben, c'est qu'il y a quoi ? Avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous. Ceux qui travaillent parmi nous, Paul travaillait là-bas. Et comment Paul travaillait ? C'est un père qui exhorte, console, insiste pour que ses enfants marchent d'une manière digne de Dieu. C'est ce qu'on a vu. Et son enseignement demande d'avoir de la considération ici pour ceux qui font comme lui. Qui amènent quoi ? La direction dans le Seigneur. Son enseignement nous dit que ses responsables devraient, tout comme lui, exhorter, consoler, conjurer devant les enfants, sous leur responsabilité, à marcher d'une manière digne de Dieu. Ils travaillent, c'est leur travail. C'est comme ça que nous dirigeons, en exhortant. Il faut être des frères et sœurs qui sachent aimer sans condition, prendre ce rôle comme une mère nourricière, avec douceur. C'est le rôle des responsables. Il rappelle qu'il y a des responsables et qu'il faut qu'une église ait des responsables. Mais ce qu'il nous enseigne avant tout, c'est d'avoir de la considération. Avoir quoi ? Beaucoup d'affection. Et la raison, ce n'est pas parce que je m'entends bien avec lui. La raison, ce n'est pas parce que sa tête me plaît bien. La raison, ce n'est pas parce que on est potes depuis longtemps. Il dit que c'est quoi la raison ? À cause de leur travail parmi nous, à cause de leur œuvre. Parce que le travail qu'ils font, il est mandaté par le Seigneur. Et l'œuvre qu'ils font, c'est l'œuvre du Seigneur. Et donc, aimer le travail comme étant celui du Seigneur. Ayez de l'affection pour eux. Pourquoi? Pour qu'ils puissent progresser aussi, eux, dans leur travail. Comme on l'a dit, personne n'est parfait. Mais si vous les aimez, vous les amènerez à quoi? À progresser. Si vous montrez dans votre vie la manière de vous conduire pour marcher dans la sainteté, même si parfois il y a des doutes, il y a des chutes, ils peuvent aussi se relever. Mais si vous ne les considérez pas, vous les perdrez. Et vous perdrez un frère. Et quand on perd un frère, ce n'est plus la sanctification, ce n'est plus l'amour fraternel. Ils sont chargés de veiller sur nous, comme un père et une mère, c'est le fardeau qui leur a été donné. Et ce travail, ce n'est pas le travail d'une babysitter, on l'a donné, c'est le travail de parents. Et les parents, ça travaille combien d'heures par semaine? 35 heures. Et on pointe à 8 heures et on finit de pointer à 18 heures, 17 heures. C'est ça le père et une mère. Si vous avez des parents, vous savez comment vos parents agissent. Et si vous avez des enfants, vous savez que s'ils sont malades à 2 heures du matin, vous ne dites pas « Désolé, je commence à 8 heures ». C'est normal. C'est pour ça qu'on parle de père et de mère. On ne parle pas simplement de travail. On parle d'aimer. Comment considérons-nous ceux qui travaillent parmi nous? Et comment travaillons-nous au milieu de nos églises? Aucun progrès ne peut venir sans l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut des personnes qui enseignent la parole de Dieu. La croissance qui est amenée en premier lieu ici, on l'a au verset 13, « Soyez en paix entre vous. » C'est quelque chose où dans le monde, on se dit que ça devrait être naturel chez les chrétiens. Si vous demandez aux païens « Qu'est-ce que vous attendez d'un chrétien ?» Il va vous dire quoi? Bah, qui s'aime les uns, les autres. Je crois que c'est la chose la plus connue. Mais ici, c'est un enseignement. D'abord, il faut connaître la parole. Afin de quoi? De ne pas être comme dans le monde, mais d'être en paix entre nous. L'enseignement de ceux qui nous dirigent nous permet de comprendre cette paix, de vivre cette paix. La paix que Dieu donne. Et j'aime bien toujours faire la différence entre la paix que Dieu donne et la paix des hommes. La paix que Dieu donne, c'est vous ne vous aimez pas, mais en Christ, vous deviendrez un. Vous êtes différents de culture, vous êtes différents d'origine, différents d'âge, différents de plein de choses, mais vous deviendrez un en Jésus-Christ. La paix dans le monde, c'est « fiche-moi la paix ». Ne marche pas sur mon territoire. La paix, c'est chacun chez soi et chacun pour soi. C'est ça quand les gens vous demandent la paix. Laisse-moi en paix. Ça veut dire quoi? Reste chez toi et moi chez moi. C'est la paix du monde. Mais la paix de Dieu, c'est tous dans l'Église. Vous deviendrez un dans la connaissance du Fils. Et c'est la force de Dieu. C'est quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas non plus un compromis. Aimer Dieu, ça ne veut pas dire, ou s'aimer les autres, ça veut dire, bon, il est dans le péché, et je vais partager sa vie dans le péché, ce n'est pas grave. Ou dire à quelqu'un, je ne vais rien lui dire parce que je l'aime, même s'il est dans le péché. Ce n'est pas ça non plus. Et d'ailleurs, on peut se permettre de parler à quelqu'un qui est dans le péché parce qu'on l'aime. Si vous n'aimez pas quelqu'un et que vous voulez parler de son péché, évitez. Parce que vous ne souhaitez pas son salut. Vous souhaitez quoi alors, si vous ne l'aimez pas? Le perdre. C'est pour ça que Dieu démarre par « Dieu a tant aimé ». C'est pour ça qu'il se permet la suite. Il a donné son Fils et il l'a montré en plus. Et c'est là qu'il dit « Mais vous périssez ». Mais si on arrive alors qu'on n'aime pas un frère et qu'il commence à lui amener des préceptes, il va dire quoi? Tu ne m'aimes pas et tu veux me parler, donc tes paroles, c'est pour me faire du mal. Mais ici, on parle de paix. De sorte que tout le monde puisse parler les uns aux autres, sachant que on est dans la paix. Donc on souhaite quoi pour tous? Le bien de tous. Lorsque Dieu nous annonce sa paix, lorsqu'il nous a partagé son amour, une chose que nous avons dû faire, ce n'est pas de faire un compromis avec Dieu. En disant, écoute Dieu, je te suis, mais bon, il y a certaines choses que j'aimerais quand même garder. C'est des péchés, oui, mais j'aime bien quand même, je ne peux pas m'en passer. Il dit, repentez-vous. Et la paix passe toujours par la sanctification. Comment est-ce qu'on va être en paix? Parce que nous avançons dans la même direction, cherchant à nous éloigner du péché. Mais si chacun essaye d'avoir une autre direction, on ne peut pas avoir la paix. Chacun va vouloir ce qu'il veut. Mais si tous cherchent la sanctification, merci Seigneur de m'avoir dit, m'avoir fait comprendre que ces choses-là doivent changer dans ma vie. Alors quand Paul dit « Soyez en paix entre vous », il s'agit toujours d'amener tout le monde à abandonner le péché et à être en communion avec Jésus-Christ, en s'éloignant du péché. Le rôle des responsables de l'Église est de diriger l'Église, mais dans quelle direction? Vers le Seigneur, vers la sanctification, vers l'amour fraternel. C'est le rôle. D'ailleurs, lorsqu'on dit que la paix n'est pas dans le compromis, qu'est-ce qu'il dit juste ensuite, verset 14? Il va parler de cette sanctification, de cet amour. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Il ne s'agit pas de se dire, ok, il est dans le désordre, mais ce n'est pas grave, on va le laisser en paix. Ce n'est pas ça la paix. Mais il s'agit de lui dire, lui donner un avertissement, que Dieu ne souhaite pas le désordre dans notre vie. Vous connaissez ce verset dans 1 Corinthiens ? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de quoi ? De paix. On confond toujours, hein ? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Le contraire du désordre, c'est quoi ? La paix. Et le contraire de la paix, c'est le désordre. Ce n'est pas la guerre. C'est le désordre. Le désordre, c'est quand chacun sort du rang. C'est un terme militaire, c'est que vous avez des rangées, et puis il y a une personne qui décide de se mettre sur le côté. Moi, je suis à part. L'ordre, hein, ceux qui sont militaires connaissent, hein, quand vous avez une marche militaire, c'est ordonné ou c'est désordonné? Chacun marche à sa manière, ou tous marchent de la même manière et dans la même direction. De la même manière, dans la même direction. C'est pour ça que c'est un avertissement. Si quelqu'un sort de la marche de la sainteté, il y a un devoir de l'avertir. Fais pas ça. Fais pas ça. Le désordre, ou l'autre mot, c'est le dérèglement. Irrégulier, excessif, démesuré, immodéré, déviant de l'ordre prescrit ou des règles. Voilà toute définition qu'on peut donner sur ce mot, sur le mot grec en lui-même. Et cette attitude met en danger l'Église, à un tel point que si dans 1 Thessaloniciens, il dit de les avertir, dans 2 Thessaloniciens 3:6, il dit « Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » C'est tellement dangereux que si une fois il est averti mais qu'il ne revient pas, il y a un deuxième enseignement, c'est « il faut s'en éloigner ». Parce qu'il amènera d'autres à quoi ? Dans le désordre. Mais c'est quoi le désordre ? Ne pas suivre l'enseignement de la parole de Dieu. C'est tout. Alors le rôle de ceux qui dirigent l'Église, c'est de les amener à progresser. Non pas qu'ils s'éloignent, mais d'avertir d'abord. Stop. Arrête, ne sors pas des rangs, abandonne cet esprit de contradiction, reviens dans l'écoute de la parole prêchée. Mais ici, ce n'est pas qu'un devoir du prédicateur, du pasteur, de l'enseignant. Il parle à tout le monde. Nous vous prions, frères, il dit au début au verset 12, au verset 13 et 14, il dit nous vous prions aussi, frères. Donc il prie les frères de faire quoi? Avertissez-les. Si vous êtes en paix avec, si vous les aimez, il faut les avertir, parce qu'ils vont souffrir. Et aimer les frères et sœurs, c'est avertir. Le reste, on sait que c'est aimer parce qu'on se dit c'est normal. Il y a trois impératifs, avertissez, consoler, supporter, et le troisième, user de patience. Voilà ce que c'est que quand vous aimez quelqu'un, vous l'avertissez, vous le consolez, vous le supportez et vous êtes patient avec lui. Et parfois, on pense que l'amour, c'est se limiter à consoler. Je te console. Mais supporter, parfois on a envie de dire, mais il y a des frères qui sont insupportables. Mais les frères peuvent aussi dire de nous, il est insupportable. Donc au final, personne ne va supporter personne. Et puis, ok, une fois, j'accepte. Deux fois, mais pas trois quand même, hein. User de patience. Consoler, à la limite, on sait faire. On dit, ah, un frère, il a un souci, ah, je vais le consoler. Ah, il a un souci, je vais le consoler. Oh, ça fait quand même 10 fois qu'il a des soucis, là. Ça suffit quand même, hein. Ça suffit, hein. Nous, nous avons nos limites. Mais l'ordre, c'est quoi? Avertissez, consoler, supporter, user de patience. Voilà comment progresser dans l'amour fraternel. Il y a un chemin. Et Dieu donne un cadre, toujours. Si quelqu'un vit dans le désordre, avertissez-le, s'il est abattu, consolez-le. S'il est dans la faiblesse, supportez-le. Et si il demande à ce qu'on soit patient, ne l'abandonnez pas. Usez de patience. Et si on ne fait pas ce qui est ordonné, alors on ne progresse pas. On n'amène pas la paix. Et si ce n'est pas la paix, c'est le désordre. Pourquoi y a-t-il parfois du désordre et des guerres dans les églises? Maintenant, vous connaissez la raison. Nous manquons d'amour fraternel. Nous manquons de mettre en pratique ces choses-là. D'où l'avertissement au verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui mal pour mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Prendre garde. Ne pas se laisser aller. Prendre garde. Sur quoi ? Que personne ne rende à autrui mal pour mal. Mais il m'a fait ça, alors je lui fais ça. C'est comme ça qu'on agit, hein, dans le monde. Parfois, c'est comme ça qu'on agit dans l'Église. Il m'a fait ça, alors je lui fais ça. Si Jésus avait fait ça, ah, ils m'ont mis à la croix, alors qu'ils meurent tous. Est-ce que c'est ce qu'il a dit à la croix ? Il a dit quoi ? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, il a béni au lieu de maudire. Et nous, nous avons l'esprit de qui? De Christ. Donc, s'il doit sortir de notre bouche, et si on marche selon l'esprit, ça doit être la même chose. Et on se dit, mais c'est Jésus. Non, mais nous avons l'esprit de Christ. Et Paul, il est en train de dire ce que vous avez appris de nous. De sorte que, si Dieu dit que c'est possible, s'il donne l'ordre, il donne le moyen de le faire. Et c'est son esprit qui nous donne le moyen de le faire. Prenez garde. Notre attitude, notre visage, notre cœur doit afficher ce qui est vrai dans notre vie. Si vous êtes heureux parce que vous avez reçu une bonne nouvelle, vous aurez un visage comment ? Verset 16. Soyez toujours joyeux. Si vous êtes vous avez reçu une bonne nouvelle, vous recevez la bonne nouvelle comment? Heureux. Pourquoi? Parce que combien même on vous ferait du mal? Qu'est-ce qui est promis? On l'a lu, hein. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous avez de quoi vous décharger. Vous avez le Seigneur Jésus-Christ qui vous a donné l'essentiel. Et Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, est-ce qu'il est venu pour que les gens l'aiment? Il est venu pour mourir à la croix. Parce que s'il est venu pour que les gens l'aiment, c'est qu'il a raté sa mission. Parce qu'à la fin de sa vie, si à un moment donné tous disaient « Hosanna, Hosanna », la plupart disaient tous quoi à la fin ? « Crucifie-le, crucifie-le ». Donc c'est raté, c'était ça. Non, il est venu lui aimer. Et donc son visage, il resplendissait de cet amour. Et nous, nous aimons. Voilà pourquoi soyons joyeux. Et si jamais nous n'aimons pas, si nous ne sommes pas joyeux, si nous avons quelque chose qui ne va pas avec un frère, il va arriver quelque chose qui est terrible. C'est pour ça qu'on se dit au verset 17, pourquoi il dit « prier sans cesse ». C'est que parfois, quand on est dans le péché ou quand on n'aime pas quelqu'un, vous savez, on n'est plus trop capable de prier. Vous pouvez prier pour quelqu'un que vous n'aimez pas ? Et puis quand vous êtes dans le péché, ce n'est pas le meilleur moment où vous avez envie de prier. Et quand il dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tout le long de la rue, vous fermez les yeux, vous marchez en priant. Ça veut dire que si à un moment donné, il y a une raison pour laquelle vous ne pouvez pas prier, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a forcément quelque chose de mauvais. Il y a du péché. Il y a de la joie qui manque. Mais si vous aimez les frères et sœurs, combien même on vous fera du mal, Jésus-Christ, c'était une prière, hein, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils s'adressaient à qui? Au Père. Et si vous aimez vraiment, vous pourrez parler en toute occasion à Dieu, sauve-le. Qu'il soit délivré de ce péché. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur soient pardonnés. C'est la volonté de Dieu. Et lorsque nous avançons dans tout ce que nous vivons, nous pourrons faire ce qui est écrit au verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Mais nous rendons grâce quoi? Dans ce que nous appelons des bénédictions. Ah, j'ai reçu une belle chose. Gloire à Dieu. Et puis quand une épreuve arrive, une affliction, ben là on ne rend plus grâce. Hein. Parce qu'on dit, mais c'est un malheur. Rappelez-vous, nous marchons de progrès en progrès vers la sanctification. Comment voulez-vous être sanctifié ou voir du progrès si Dieu ne vous met pas des situations pour mettre en pratique ce que vous avez reçu? C'est pas pour rien que dans Pierre, il dit, celui qui en a souffert en a fini avec le péché. Le péché, c'est pas si simple de s'en séparer. Hein. Si vous arrivez facilement à vous en séparer, c'est que vous n'étiez pas esclave. C'était pas quelque chose qui vous prenait vraiment. Mais un péché, quand vous demandez à une personne qui vit dans la débauche de se séparer d'une personne, est-ce que vous pensez qu'il dit, ah d'accord, il en souffre. Parce qu'il lui a livré tout et qu'il va falloir se séparer. Et c'est vrai pour tous nos péchés. Je parle de ce péché parce que on parle de sentiments et on voit qu'il y a de la douleur. Et tout le monde connaît ce genre de douleur. Mais c'est vrai pour tout. Vous prenez une addiction, c'est une souffrance. On appelle sevrer. Si vous devez sevrer, c'est qu'il y a une difficulté à s'en séparer. Il y a une souffrance. C'est pour ça que il faut que nous usions de patience, nous conseillons, nous supportons, nous avertissions chacun les autres, les uns les autres. Et que nous prions sans cesse pour les autres, que nous montrons la joie de ce que c'est que d'être délivrés et que nous rendons grâce en tout temps. Parce que chacune des épreuves nous permet de séparer de ce péché. Ne nous plaignons pas de notre Église, de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, de notre femme, de notre mari, des gens, de l'environnement. Mais apprenons toujours à rendre grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard, il est dit quoi? Une option que Dieu donne. La volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est la norme. Alors, pour conclure, maintenant la question est, je la repose, voulez-vous progresser? Et est-ce que vous recherchez ce que Dieu écrit ici? Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. C'est au verset 15. Et il nous dit comment faire. Rendre grâce, être joyeux, prier sans cesse, prendre garde, veiller ne pas être réactionnaire, avertir, consoler, supporter, user de patience envers les frères et sœurs, considérer avec beaucoup d'affection ceux qui nous enseignent, ceux qui annoncent la parole de Dieu. Si nous ne recherchons pas la progression, ne pensons pas que nous resterons au même niveau. Qu'est-ce qu'il dit après, verset 19? N'éteignez pas l'esprit. Si vous ne progressez pas, vous allez diminuer quelque chose. Une lumière qui se trouve chez vous, qui est l'esprit. Donc ce n'est pas une option de progresser, c'est si vous voulez briller de la lumière de Christ, que l'esprit brille, il faut progresser. Et on verra chez vous le fruit de cet esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est de ça qu'il parle depuis. C'est du fruit de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous a donné l'esprit. Marcher d'une manière digne de Dieu. Marcher selon l'esprit. Notre vie sera toujours en régression lorsque nous ne recherchons pas la progression. Ne méprisez pas les prophéties. Toute exhortation venant de Dieu. Prenez-les, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. retenez et faites quoi aussi, il est dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est comme un peu des animaux, il y a plusieurs espèces. Ah, il n'y a pas qu'un mal. Parce que souvent, le mal, c'est celui que fait l'autre. Mais il y a plusieurs espèces de mal. Il y a ce qui sort de notre bouche, il y a ce jugement envers le frère, il y a beaucoup de choses, il y a la débauche, j'en ai parlé, il y a quoi encore? Il y a l'adultère, il y a l'ivrognerie, et il y a plein de péchés, il y a plusieurs espèces. Et c'est toujours celui de l'autre qui est le pire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le nôtre. Le nôtre, on le supporte bien. On supporte nos péchés. Mais nous devons quoi? Avertir, consoler, user de patience, supporter. Même le péché chez les gens. Pour les amener à quoi? À être délivrés. Marcher, c'est ce qu'il dit. Hein. Comme vous avez appris de nous, voilà la manière de se conduire. Lorsque nous obéissons à sa parole, celui qui nous a appelés à sainteté fait l'œuvre attendue. Il nous fait progresser dans cette marche qui est digne de lui. Il nous sanctifie fidèlement. Tout notre être est touché, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est ce que dit tout simplement le verset 23 et 24. Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est lui qui le fait. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Voilà pourquoi nous comptons sur sa parole et sur son esprit. Mais obéissons. L'église de Thessalonique a-t-elle fait des progrès suite à cet enseignement? Suite à cet enseignement, s'ils ont mis en pratique cela, c'est sûr que oui. Son secret, c'est de recevoir la parole de Dieu telle qu'elle a été, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et s'ils continuent à vivre comme cela, ils progresseront. Est-ce que Dieu fait toujours l'œuvre qu'il a promise? Oui. C'est pour ça que quand Paul les a enseignés, Timothée est revenu en disant « Ce que Dieu a promis, il l'a accompli chez eux. » Alors laissons Dieu agir dans notre vie. Laissons Dieu faire les choses. Et je vais prendre juste un verset dans 2 Thessaloniciens 1, 3, 4, le chapitre d'après, qui répond à la question. Est-ce que l'église de Thessalonique a fait des progrès? 2 Thessaloniciens 1, 3, 4 nous dit « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. » Vous voyez, voilà une église mature. On sait que le résultat sera obtenu. Et qu'est-ce que dit Paul? Le résultat, il était là? Ils ont fait des progrès. Parce que la parole de Dieu était ce qu'il y a de principal chez eux. La parole de Dieu, c'est notre secret. Est-ce que ce qui se fait dans la vie des Thessaloniciens peut se faire au milieu de nos vies? Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Prions.